Alternativa 2017. L'équipe d'Ondes Courtes est allée capter les conférences lors de l'édition Alternativa 2017. Samedi 15 juillet 2017, lors de l'édition de Alternativa à Ginals dans le 82, avait lieu une conférence animée par Pierre Lécolo sur l'autonomie récupération des eaux de pluie.
Et évidemment, pour cette protection du réseau public que je parlais, la disconnexion physique des réseaux, ça c'est ce qui a été clairement indiqué et insisté sur les différents textes réglementaires. Sauf que je vous repose aussi une autre question. On va le voir juste après la fameuse... Là, la disconnexion physique par surverse totale, en fait, c'est le schéma qu'on va voir juste après. Donc, c'est une surverse totale, en fait, qu'on appelle aussi une rupture de charge. Vous avez un réservoir tampon. Avec l'alimentation de l'eau de ville et la sortie de cette eau de ville qui va être pompée ou distribuée ailleurs, avec un trop-plein, et en fait, ce qu'on appelle la surverse totale ou la rupture de charge ou la mise à l'air libre, c'est que votre arrivée d'eau de ville est interrompue et l'eau va chuter simplement, donc, être mise à l'air libre, donc... On coupe la pression, en fait, on coupe le circuit, et le niveau de débordement de ce réservoir tampon, en fait, on ne peut plus avoir de contact ni avec le contenu du réservoir, ni avec l'alimentation. Donc, en fait, c'est ça, simplement, cette disconnexion par surverse totale, qu'on appelle rupture de charge ou mise à l'air libre, c'est ça. C'est cette garde, je vais dire, qu'il y a entre le tuyau d'alimentation d'eau de ville et ce réservoir tampon, pour protéger, en fait, qu'il n'y ait pas de retour d'eau, ou qu'il y ait de retour bactérien, je veux dire, sur le réseau public. Mais ça, c'est la sécurité extrême. Il n'y a pas mieux comme sécurité. Par contre, donc là vous avez le même schéma, mais là qui est coté, je veux dire, parce qu'il y a des cotes réglementaires aussi. Mais par contre, vous allez voir après un simple disconnecteur, BA, qui lui, on retrouve ce disconnecteur, en fait, c'est juste un matériel physique, on va le voir après, qu'on retrouve par exemple sur toutes les installations, les chaudières ou quoi, les installations de chauffage central. Je ne sais pas si vous connaissez la qualité d'une eau de chauffage central qui circule dans des radiateurs. Vous avez déjà vu ça? Je vais vous dire que c'est pas beau à voir, donc c'est autrement plus dangereux que de l'eau de pluie. Donc pourquoi on est venu emmerder les gens avec leur système de récupération d'eau de pluie à mettre le système extrême, de sécurité extrême, mais que sur une chaudière ou un système de chauffage central, on permet tout simplement d'avoir un disconnecteur qui garde, lui, un contact physique. Cherchez l'erreur, je n'ai pas encore compris. Et vous voyez, il y a aussi quelque chose de disproportionné là. Ça aussi, c'est voulu. Toujours dans cette idée aussi de dissuader un maximum, de compliquer au maximum et tout pour vous dissuader d'investir là-dedans. Et ici, par exemple, ça c'est le type de matériel. Malheureusement, c'est pas très clair, je ne sais pas si vous le voyez. Ça c'est le type de matériel maintenant. Parce qu'évidemment, c'est aussi les industriels qui ont écrit la nouvelle réglementation. Comme en assainissement, c'est pareil, ils se sont ouverts largement le marché des microstations en écrivant la nouvelle réglementation de l'assainissement de collectif. Ici, sur le puits, c'est pareil. C'est aussi les industriels qui ont beaucoup écrit la réglementation en s'ouvrant aussi ce marché des stations automatisées, je veux dire. Des modules de pompage automatisés. Et ça, c'en est un, et je veux dire, peut-être 4 fois sur 5, c'est ce qui était vendu systématiquement avec une installation. Ah, mais c'est pratique pour vous, oui, c'est petit, ça se met au mur, c'est vite fait. Oui, c'est vite fait, c'est vite posé, c'est vite vendu, c'est bien vendu aussi par l'installateur. Par contre, le particulier, après, derrière, il comprend pas trop comment ça fonctionne, et quand il y a un problème, il sait pas non plus comment le réparer ou comment le gérer. Parce que vous avez la pompe avec un module de pompage, un module de commande électronique, mais la pompe, je sais pas si vous le voyez parce que c'est pas clair du tout. Mais juste ici en dessous, il y a une électrovanne 3 voies en fait. Là, vous avez le tuyau de pompage qui vient directement de la cuve. Donc la pompe aspire l'eau de la cuve. Si votre cuve arrive à sec, arrive à son niveau bas critique, vous avez une sonde reliée au tableau de commande. Il y a une sonde qui va dans la cuve et qui détecte ce niveau de bas critique. Et s'il est atteint, ça commande le tableau. Et le tableau commande l'électrovanne. Et l'électrovanne va permuter. Et en permutant, au lieu d'aspirer l'eau de pluie dans la cuve, qui aura plus, va aspirer en fait le contenu de l'eau de ville qui est dans ce petit réservoir. Et ce réservoir tampon, il est là. Et on voit ici en fait l'arrivée d'eau de ville qui va alimenter ce réservoir tampon. Là, je ne sais pas si on le voit, mais ici il y a la colonne de trop-plein en fait. Donc vous avez le trop-plein qui est là, et l'arrivée d'eau de ville qui s'arrête là. Donc la rupture de charge, elle est là, la mise à l'air libre. Donc ça, c'est tout à fait conforme, ça respecte. Et ici, donc, vous avez le refoulement de la pompe. Sauf que, ben voilà, moi, j'aime pas du tout ça, parce que d'une part, c'est vendu cher, mais je reviens aussi sur une notion de cohérence. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en commençant, la conception et l'étude de votre projet, c'est très important. Si dans votre conception, vous savez que vous avez un stockage juste, cohérent, par rapport à votre potentiel, donc le potentiel, c'est le rapport entre votre surface de captage et la pluviométrie locale, ça va vous donner votre potentiel de récupération annuel. Et sur base de ce potentiel, vous allez mettre en face vos besoins. Et donc si tout vos besoins sont couverts ou largement couverts par ce potentiel, pas de problème, vous êtes tranquille, vous pouvez être autonome. Si vous pouvez être autonome, et que votre étude est bien faite, que votre calcul de dimensionnement de stockage est bien fait, et que vous savez que vous n'avez pas ou très peu de chances d'être à sec, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup d'investir, ça se vend entre 1500 et 2500 euros quand même. Rien que la pompe elle-même, enfin le module de pompage. Il faut ajouter à ça encore la suppression. Comme je vous avais dit tout à l'heure, moi, un copain qui ne voulait pas investir 950 euros sur une très bonne pompe et un bon système de suppression, là, rien que sur le module de pompage sans la suppression, on est déjà entre 1500 et 2500. Mais sa fonction première, c'est de basculer automatiquement. Donc c'est le petit module électronique là-bas qui va basculer automatiquement de l'autre ville à l'autre puits, de l'autre ville à l'autre ville. Et mais si vous n'avez pas besoin de basculer sur l'autre ville parce que vous serez peut-être jamais à sec, est-ce que c'est cohérent d'installer ça? En sachant aussi que dans ce petit réservoir tampon là, c'est du plastique. Donc votre volume d'eau de ville qui va rester là de manière sécurisée et de manière conforme, tout à fait d'accord. Mais c'est quand même un volume d'une dizaine de litres qui va rester en permanence dans un stockage plastique. Hein. Mais il y a certaines marques de ce système de pompage. Pour parer justement le problème de ce stockage long d'une eau inerte qui va rester dans ce stockage plastique, mais ils ont prévu que le module automatique, là, électronique, il va faire une purge toutes les semaines. Donc toutes les semaines, boum, vous allez tourner un quart d'heure sur l'eau de ville pour purger le réservoir. Vous le savez pas, hein, vous en rendez pas compte, sauf si vous sentez éventuellement chlore au robinet, mais vous savez pas que toutes les semaines, pendant un quart d'heure, la pompe va renouveler le stock d'eau de ville, juste pour ne pas que ça stagne dans le réservoir plastique, quoi. Et si c'est vide et que ça repasse sur l'eau de ville, ah ben, y a un témoin lumineux qui vous l'indique, mais si vous descendez pas la cave ou la remise ou le module, vous savez pas non plus que vous repassez d'un à l'autre. Mais ce qui est le plus aberrant, c'est pour moi, c'est que cette rupture de charge là, rupture de charge, rupture de pression. Donc si vous devez repasser en eau de ville, ça veut dire que crac, ça percute l'électro 23 voies, et ça va vous aspirer le volume d'eau de ville qui est là, pour vous le remettre dans le circuit. Mais c'est un peu couillon, parce qu'en arrivant là, quand elle arrive là, l'eau de ville, elle est toujours sous pression. Donc vous avez la pression du réseau, qu'on coupe, qu'on interrompt, pour réutiliser l'électricité de la pompe et la pompe, pour remettre cette eau qui était sous pression, qu'on a coupée, pour remettre en pression dans votre... Trouvez pas qu'il y a des... Vous comprenez ce que je veux dire? On va devoir utiliser la pompe simplement pour la remettre dans le circuit sous pression alors qu'elle arrivait déjà d'elle-même sous pression à l'entrée de la pompe. Parce qu'obligatoirement, ça va devoir repasser par là. Donc on est quand même obligé de réutiliser la pompe. Donc voilà, c'est des incohérences, je veux dire, conceptuelles et des incohérences techniques qui pour moi ne conviennent pas. Et j'ai jamais voulu travailler avec ça. Parce que je disais aussi à certaines personnes, si vous avez un gros potentiel et que vous n'avez pas beaucoup de besoins, que vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers pour augmenter le stockage, si votre potentiel le permet, mais au lieu d'investir 2 500 plus surpression dans ce genre de module qui servira à rien, mais investissez simplement 1 000 ou 1 500 euros dans une cuve supplémentaire pour augmenter votre stock, si vous avez du potentiel, augmentez votre stock et là vous serez jamais à sec, donc vous n'aurez pas besoin de cette pompe. Vous voyez, encore une fois, restez dans la cohérence, restez dans le bon sens, en prenant tout en compte. C'est pour ça que je vous disais au début, l'étude et la conception au départ, c'est très important pour rester aussi dans des bons choix, dans des bons investissements, dans des bons matériels. Et je vous parlais tout à l'heure d'une notion de cohérence aussi, et d'efficacité aussi, de performance. Là, par exemple, c'est un autre système. Au lieu de permuter directement au niveau de la station de pompage, ça, c'est un système, c'est aussi une électrovanne, mais qui va vous permettre, en cas de cuve à sec, qui va vous permettre de réalimenter la cuve en eau de ville. Donc là, c'est un module électrovanne. Clac, si la sonde détecte que vous êtes en niveau bas, ça va réalimenter la cuve directement d'une certaine proportion, je veux dire, que vous pouvez paramétrer. Mais ça, pour moi, il n'est pas question, quoi. Injecter de l'eau de ville chlorée dans votre stockage d'eau de pluie, niette. Parce que là, justement, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, vous avez une très bonne qualité d'eau de pluie dans votre stockage, une eau naturelle. N'allez pas la saboter avec de l'eau de ville chlorée. Dès lors que vous allez introduire de l'eau de ville dans votre stockage, tous les paramètres physico-chimiques vont être sabotés. Et là, vous allez faire pire que mieux. Donc, niette, ça, je ne veux aucun, c'est pour ça que je disais, aucun traitement chimique, ni chlore, ni javel, ni quoi que ce soit, ni réintroduction de l'eau de ville dans le stockage d'eau de pluie. Donc, à la limite, il vaut mieux avoir la station automatique juste avant, qui, elle, ne va pas remélanger dans la cuve. Mais ce module-ci, par exemple, il permet une réalimentation de secours dans la cuve. Et par contre, ça aussi, c'est un autre moyen d'avoir la disconnexion des deux réseaux, potable et non potable. Et donc, ça participe aussi à cette disconnexion des deux réseaux, par un autre moyen, donc ça n'a rien à réalimentation de la cuve. Je ne sais pas si vous remarquez ce qu'il y a là. Ben oui, je vous le donne en mille. C'est le réseau d'eau de ville d'un côté, le réseau d'eau de puits de l'autre. Et qu'est-ce que le plombier a fait? Ce qu'on fait d'habitude. Deux vannes, une connexion entre les deux. Donc ça veut dire que le plombier qui a travaillé là-dessus. En plus, le gars qui m'a. Ça, c'est une photo personnelle d'un gars qui m'a envoyé ça par internet. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi sa station ne fonctionnait pas. Et le plombier qui a mis ça, il n'a même pas compris à quoi sert le module, parce que le tuyau qui arrive ici, qui doit aller théoriquement réalimenter en eau de ville la cuve, il l'a branché directement sur la sortie de la pompe. Alors évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc le plombier qui a installé ça, il n'a pas encore compris à quoi il sert le module. Mais en plus, il s'est permis de refaire une connexion entre les deux circuits. Gentil. Donc ça sert justement à éviter ça, il le fait juste à côté. Pourquoi pas? Bon, c'est quand même des plombiers professionnels qui ont fait ça. Ici, rebelote, on retrouve la même station de pompage de tout à l'heure. Donc aussi avec la mise à l'égout, parce qu'il y a une sécurité quand même. Au niveau du trop-plein, là-bas, le trop-plein doit partir directement à l'égout. Donc, le pompage de l'eau de la cuve, l'électrovanne ici qui va pomper le petit réservoir et tout, avec le refoulement de la pompe qui va directement sur le réseau principal avec les premiers filtres. Je ne sais pas si vous remarquez là, oui, rebelote. Il a refait aussi, cet autre plombier là, sur l'autre installation, il a refait aussi une connexion directe entre le circuit d'eau de puits et d'eau de ville. Donc lui non plus, il n'a pas encore compris à quoi sert la station de pompage. Quand je vous dis qu'on ne sait plus trop à qui se fier, malheureusement, je suis au regret de reconnaître aussi que même au niveau des professionnels, c'est pas toujours ça quoi. Le module avant que je vous ai dit, de réintroduction sur la cuve, ça c'est un autre système encore plus simple. L'électrovanne est directement sur l'alimentation et ça se connecte normalement sur le haut de la cuve, sur le trou d'homme de la cuve. Et là, ben voilà, c'est l'électrovanne qui est commandée directement au-dessus. Et la rupture de charge, on la trouve là. Donc pareil, le tuyau est interrompu, mis à l'air libre, qui est réceptionné dans le truc. Ça, c'est conforme. Parce qu'il faut se rendre compte que la surverse totale, c'est un système et non pas un matériel. C'est un principe et non pas un matériel. Ça, c'est pareil, voilà, on retrouve sur une autre marque. Donc la sonde, le tableau de commande et la rupture de charge, elle est là. Ça, ça se clipse aussi sur le haut de la cuve, pareil. Voilà le fameux disconnecteur BA. Ça, c'est ce qui est officiel et habituellement installé sur les chaudières ou les systèmes de chauffage, le chauffage central. Ou il peut y avoir un complément d'autres villes. Donc là, il y a un impact sur l'autre ville. Et là, on tolère ça. L'arrivée d'un côté, la sortie de l'autre. Si jamais il y avait un reflux, un retour d'eau inverse, automatiquement, là, il y a trois soupapes. C'est trois soupapes membranes qui réagissent justement systématiquement aux pressions. Tant que la pression est dans ce sens-là, tout va bien. Si jamais il y avait un retour de pression inverse, cette membrane-là, la soupape, elle se ferme. Celle-là de mise à l'égout, elle s'ouvre, et celle-là reste ouverte, donc le reflux directement est par à l'égout. Il ne peut pas y avoir de retour sur le réseau d'autres villes. Sauf que j'ai pas envie de mourir idiot non plus, je suis permis de poser la question directement au fabricant du disconnecteur, hein, c'est le plus connu, le plus officiel, et j'ai posé la question au fabricant. D'accord, pour le retour de flux, c'est une bonne sécurité, mais est-ce qu'on peut considérer ça pour autant comme une barrière antibactérienne? Parce que c'est ça, l'enjeu aussi, c'est d'éviter un retour bactérien. Ah ben non, hein, parce qu'il y a toujours contact en... Au milieu de l'appareil, il y a toujours contact entre tout... L'eau est toujours en contact entre toutes les soupapes, les membranes et tout, donc non, on ne peut pas considérer ça comme une barrière antibactérienne. Donc là, au niveau protection bactérienne, ça ne sert pas. Donc pourquoi on autorise ça sur les systèmes de chauffage et qu'on met l'extrême sur les systèmes d'eau de pluie? Allez comprendre. Donc voilà le schéma d'installation aussi, bon, après ça... Bon, ça c'est le petit clapet anti-pollution qu'on connaît très bien aussi. Bon, là aussi j'avais posé la question au groupe d'experts national, hein, au groupe d'études national. Je leur avais dit, mais attendez, s'il y a déjà ce... clapet anti-pollution EA derrière le compteur d'alimentation et qu'on remet un autre clapet au niveau de la disconnexion sur l'installation d'eau de puits, ça fait quand même une vanne et deux clapets anti-retour et anti-pollution. Ah oui, non, il faut considérer que les trois peuvent être défaillants tous les trois en même temps. Oui, mais bon, voilà. Alors, alternative que moi je propose à mes clients, bon, c'est pas du tout conforme, c'est pas du tout réglementaire, je vous le dis tout de suite, mais ça n'empêche que ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que j'insiste, la surverse totale ce n'est pas un matériel, c'est un principe. Donc c'est le principe de mise à l'air libre. Ce que j'ai fait ici, là on voit mon trou d'homme de ma cuve de pompage, mon tuyau de pompage il est là, il repart. Ici j'ai mes câbles électriques qui arrivent, là c'est le tuyau de ventilation, et juste en dessous, je sais pas, hein, vous voyez peut-être pas, mais juste en dessous là j'ai un tuyau PEHD 25 qui arrive, mais qui arrive ça au-dessus du niveau de débordement de mes cuves. Donc en fait moi j'ai appliqué le système, le principe de la surverse totale, non pas sur le pompage, mais directement sur ma cuve. Donc comme si j'étais à sec, je pourrais réalimenter mes cuves directement en eau de puits via ce tuyau. J'ai qu'une vanne à ouvrir à la maison, je peux réalimenter en eau de ville directement ma cuve d'eau de puits. Chose que je ne ferai jamais, évidemment, parce que je vous ai dit qu'il ne faut surtout pas faire ça, surtout pas introduire de javel ou de chlore ou d'eau chlorée dans la cuve. Comme moi, je consommais 35 mètres cubes par an et j'avais 30 mètres cubes de stockage. Donc je sais que je ne serai jamais à sec, je n'ai déjà jamais descendu... Parce que mon stockage était prévu aussi peut-être dans l'éventualité que je puisse alimenter mon gîte. Donc j'ai quand même un très gros stockage où je suis jamais descendu d'ailleurs à moitié de mes cuves. Donc je sais que je serai jamais à sec. Donc je sais que je ne l'utiliserai pas. Mais si j'ai un jour j'ai un contrôle, je suis conforme. Juste une vanne et juste un tuyau qui arrive à ma cuve, ça m'a pas coûté 2500 euros quoi. Je suis conforme. J'ai respecté le principe de surverse totale qui est défini dans la réglementation. Même si c'est extrême, je l'ai quand même respecté. Avec une vanne et 10 ou 12 mètres de tuyaux. C'est tout. Encore une fois, restons dans le bon sens, restons dans la cohérence, restons dans la conception.
Oui, juste une question, les 30 mètres cubes, là, vous allez les conserver pendant combien de temps? Parce que l'eau, elle reste ad vitam aeternam, l'eau de pluie.
Ça tourne.
Oui, mais même si elle tourne, il y a quand même une grosse quantité qui reste au niveau bactérien, tout ça. Il n'y a pas de souci.
Ça, je sais les grandes craintes de beaucoup de gens, et tout, la stagnation de l'eau qui va croupir et tout, quand c'est stagnante, le développement bactérien. Non, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, c'est beaucoup dans le fantasme, mais quand c'est bien conçu, ce fantasme, il n'a plus de raison d'être. Encore une fois, je dis quand c'est bien conçu, parce que justement, moi je préfère, par exemple, si vous avez une installation où vous voudriez avoir, par exemple, 10 mètres cubes de stockage, je préfère avoir deux cubes de 5000 qu'une grosse de 10000. D'une part, parce que les deux de 5000 seront plus petites et plus légères, plus faciles à mettre en œuvre, à transporter et à mettre en œuvre, à poser. Mais en même temps, au lieu d'avoir une seule cuve monovolume, si on en a deux, ça permet d'alimenter dans une, de transférer l'autre dans la deuxième et de pomper dans la deuxième. Ce qui veut dire qu'en plus de la préfiltration avant stockage, vous avez encore dans la première cuve une décantation par rapport à la deuxième. Donc l'eau dans la cuve et l'eau dans la cuve deuxième sera toujours plus propre que dans la première. Donc c'est pour ça que je préfère aussi alimenter dans une. Donc quand je fais par exemple un montage en série avec 3 cubes de 6000, donc là je suis sur un stockage de 18 mètres cubes, je fais 3 cubes de 6000, j'alimente dans la première, qui transfère dans la deuxième, qui transfère dans la troisième, et je pompe dans la troisième. Et là dans la troisième j'ai un fond de cuve propre et de l'eau clean. Voilà, c'est juste aussi pour, en plus, je veux dire, une petite astuce, en plus à adapter la décantation, en plus de la préfiltration. Et donc voilà ce que je fais aussi, ce que je propose à mes clients, et qui en général n'en ont pas besoin, parce que mes études en général sont quand même correct, je veux dire, elles sont quand même bien établies, elles sont quand même fiables, et donc je sais qu'ils en ont théoriquement pas besoin, mais ce que je propose, et là c'est pareil, ça coûte quelques mètres de tuyaux en plus d'autres villes, que je viens mettre en parallèle de mon eau de pluie. Mon arrivée d'autres villes, donc je prolonge mon arrivée d'autres villes, où je viens mettre en parallèle donc les deux arrivées eau de pluie et eau de ville, l'autre ville que je protège encore une fois, donc avec un deuxième clapet anti-pollution, et après filtration, et après le compteur, après filtration, je viens donc à ma deuxième alimentation en eau de pluie et mon départ général de l'intérieur de la maison, mon circuit général en fait, je le connecte par un tuyau flexible, soit sur l'une, soit sur l'autre. Mais les deux ne seront jamais interconnectés ensemble. Donc là, ça coûte quelques mètres de tuyau, 3 vannes bien flexibles. Et j'ai mon système de disconnexion. Manuel, certes, pas conforme, certes, mais tout aussi efficace. Et là aussi, l'animateur du groupe de travail des experts au niveau national m'avait dit « Ah oui, mais non, ça, c'est pas cool et tout, parce que si jamais vous êtes en eau de ville, en eau de pluie, vous êtes à sec en eau de pluie, vous allez devoir repasser en eau de ville, ça veut dire que vous allez repasser l'eau de ville sur un résiduel interne d'eau de pluie, donc il faut trouver un système de désinfection du circuit intérieur et tout, de purge et tout du circuit intérieur, pour ne pas remélanger les deux eaux. » Et je lui dis, là, on est à pré-filtration. On a déjà une eau brute de très bonne qualité. Là, on est encore à pré-filtration intérieure. Mais qu'est-ce que vous allez avoir comme résiduel polluant de pollution, je vais dire, après, dans le réseau intérieur. Et le réseau intérieur, qu'est-ce que ça représente en volume d'eau réelle pour dire de pouvoir contaminer une eau de ville chlorée, sous pression, sur un circuit qui arrive sous pression. Donc je veux dire, avec un petit peu de jugeote, si vous devez repasser vraiment en eau de ville, vous ouvrez un robinet en bas, un robinet en haut, vous ouvrez, vous repurgez directement le réseau intérieur. En 5 minutes, c'est fait. Mais même le résiduel d'eau de pluie, avec l'extrêmement faible pollution de contaminants qu'il peut y avoir, et en plus, ces contaminants qui sont pas des contaminants, parce que même les bactéries, j'ai analysé toutes les bactéries que j'avais dans mon stockage aussi, je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des bactéries les plus dangereuses. Ce sont surtout les sulfito-réductrices, et ce sont des bactéries beaucoup moins nocives. J'ai jamais eu de contamination fécale, de bactéries fécales dans mon stockage. Donc ça aussi, c'est important de savoir. Mais bon, voilà, mais encore sur la conception, c'est tout simple. Quelques mètres de tuyaux, 3 vannes inflexibles. On ne va pas chercher plus loin que ça. Mais bon, je sais qu'en même temps, mes clients n'en auront pas besoin. Au niveau du captage, par exemple, vous voyez, ça c'est obligatoire dans la réglementation. Ils ont défini obligatoire la fameuse crapaudine. Hein. C'est ce qu'on appelle la crapaudine. Donc c'est les grilles en plastique ou les araignées là, en plastique ou en métal qu'on met dans la naissance de la gouttière, au niveau de la naissance, de la descente de gouttière. Oubliez, hein. Évitez, surtout ça, évitez. Voilà ce que ça peut donner. Si vous avez des feuilles, des arbres et tout, des feuilles ou quoi que ce soit qui peuvent arriver sur le toit, mais il n'y a pas mieux que pour faire un bouchon directement au niveau de la gouttière. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de nettoyer une gouttière qui est toujours à moitié en eau en permanence. Je peux vous dire que ça sent bon la mer et c'est pas très beau non plus. Hein, bon, voilà, c'est grâce à la crapaudine. Donc la crapaudine, oubliez. Oui, c'est obligatoire, on s'en fout, oubliez. Ça, c'est un très beau résultat, vous voyez. Donc il vaut mieux alors, dans ce cas-là, c'est de mettre des pare-feuilles. Soit des pare-feuilles plats, soit des pare-feuilles cylindriques. Ça, ce sont des... Ne pas confondre, ça, c'est pas de la filtration. Ça, ce sont des éléments de dégrillage. Donc ça, c'est pour dégriller directement les feuilles au niveau de la descente de gouttière. C'est pas de la préfiltration à proprement parler. Ça aussi, ce sont d'autres modèles de dégrilleurs. Là, maintenant, on rentre sur le préfiltre enterré. Très important, le préfiltre avant stockage. Justement, pour avoir une bonne qualité d'eau, une bonne conservation de la qualité d'eau dans le stockage. Par contre, ça, ce sont différents modèles que je vais vous montrer de préfiltration industrielle qui sont sous forme de préfiltration auto-nettoyante. J'aime pas non plus. Ah, c'est bien, vous dites, mais c'est auto-nettoyant, vous n'avez pas besoin d'entretenir. Et si, il faut quand même un minimum d'entretien. J'ai un copain d'ailleurs, vous voyez, là on a un système avec une grille plate, légèrement courbée, mais une grille plate. L'eau filtre à travers la grille et tous les déchets repartent après dans le trop-plein. Ça n'empêche qu'ils ont quand même mis auto-nettoyant que ça, ils ont quand même mis une petite buzette là, que vous pouvez brancher sur le réseau d'eau de ville pour avoir une pulvérisation sous pression et tout pour nettoyer la grille. À part ça, c'est auto-nettoyant, enfin bon, soit. Mais là vous avez un système de grille, ça va encore. Là vous avez un système tubulaire. Ah, au secours. Oubliez. Parce que là, un système tubulaire, vous avez juste un petit filet d'eau qui passe sur le fond. Et ça, ça se colmate vite fait, bien fait. Ben, si ça se colmate juste sur le passage de l'eau, ben, l'eau, elle passe son chemin tout droit. Et vous avez, j'ai un copain qui avait ce système de grille. Il avait calculé, il avait jusqu'à 80% de perte avant le stockage. Vous n'allez pas investir dans une installation pour perdre déjà 80% avant que ça n'arrive dans le stockage. Hein, excusez-moi, mais bon. Donc, préférez les systèmes à panier. Ça, c'est un système à grille circulaire. Ça, c'est un système à panier. Donc toute l'eau, toutes les saloperies vont rester dans le panier, toute l'eau va percoler à travers le panier. Le panier, même si c'est bouché dans le fond, l'eau peut monter et filtrer à travers les côtés. C'est franchement mieux, c'est un peu plus manuel, ça réclame pas beaucoup d'entretien, mais préférez les systèmes manuels à panier et pas auto-nettoyants, quoi. Parce que ici c'est pareil, là, des bâtons en plastique qui permettent d'évacuer les feuilles, l'eau doit passer à travers les bâtons pour repasser à travers une deuxième grille. Mais quand vous voyez l'inclinaison que ça c'est bien réel, quand vous voyez l'inclinaison que ça, quand c'est un gros flux qui arrive, il y a tout qui passe à la poubelle, quoi. L'autre circulaire à côté, c'est un filtre avant, lui est très bon. Par contre, il est très bon sur les gros flux, mais pas sur les bons flux. Voilà, ça c'est des modèles internes aussi, ça existe aussi des modèles internes dans la cuve. Et moi, ce que j'ai fait en fait chez moi, tout simplement, je ne suis pas embêté. J'ai repris le fameux panier là, de chez Graff, qu'ils utilisent dans le cuve. J'ai acheté le panier tout seul, que j'ai intégré dans un regard en béton. Et je me suis permis le luxe. Donc, j'ai une arrivée avec un coude amovible. Toute l'arrivée arrive dans le panier. Et j'ai deux sorties. J'ai une sortie vers la cuve, une sortie vers le talus, vers l'exutoire. Et en fait, ce que je me suis permis, c'est que ma sortie, là vous ne le verrez pas, c'est pas assez clair. Mais sur mes deux sorties là-bas, j'ai mis une collerette à visser avec un bouchon à visser. Et en fait, j'ai toujours une des deux sorties qui est bouchonnée. Donc tant que tout va bien, j'ai mon entrée vers la cuve qui est ouverte et l'autre fermée, évidemment. Mais comme il est arrivé, par exemple, vous vous souvenez, le fameux volcan islandais, que le nuage du volcan était passé sur l'Europe, là j'ai dit à mes clients, pendant au moins un mois, si vous pouvez vous permettre, vous bloquez l'alimentation de la cuve et toute l'eau qui va lessiver l'atmosphère et tout, et le ciel et vos toitures, vous laissez partir l'exutoire. Vous ne pas polluer justement votre eau. Ça, c'est une précaution qui n'existe pas sur les préfiltres industriels. Donc j'ai la possibilité, moi, de choisir l'alimentation en fonction. Si vraiment il y a une grosse période sèche, pendant 2 mois période sèche, là c'est pareil, vous fermez l'alimentation et vous laissez partir l'exutoire. Donc voilà, je pouvais vous présenter le reste, mais après c'est du connu, bon, c'est les cuves, c'est les filtres. Les cuves, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Bon, moi j'aime pas les cuves plastiques, évidemment, vous l'avez compris. Le béton, c'est franchement préférable. Sur les matériels de filtration, il y a une gamme. Il y a une gamme invraisemblable maintenant de tout type de filtration, filtration primaire, moyenne, filtration charbon, filtration de potabilisation, désinfection, les UV. Voilà, il y a un panel pas possible. Donc comment s'y retrouver aussi là-dedans? Je vais pas vous répondre, mais tout est possible, je veux dire. Il y a beaucoup de possibilités maintenant. Il y a beaucoup de possibilités techniques, il y a beaucoup de possibilités matérielles. Donc les matériels, ben, il y a le choix, il y a plein de prix aussi, tout dépend aussi du vendeur. Mais ce qui m'importe le plus, moi, pour moi, c'est de vous dire, faites attention justement à vos idées, vos motivations. Comprenez bien ce qu'il en est pour mieux gérer vos motivations et savoir avec qui vous allez travailler aussi et comment. Mais surtout, ne négligez pas la conception et ne négligez pas la réflexion justement, parce que la réflexion va engendrer une bonne conception qui va engendrer après une installation cohérente, performante, efficace et facile et agréable à utiliser.
Cette émission a été réalisée par Olaf Böhmer et Alexandra Joss pour Onde Courte. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez toutes nos émissions sur ondecourte.fr, la web radio du libre.